Mais en ces temps-là, le pays encore intact avait, au lieu de montagnes et de hautes collines, les plaines qui portent aujourd'hui le nom des Felleus, étaient remplies de terre grasse. Il y avait sur les montagnes de grandes forêts, dont il reste encore aujourd'hui des témoignages visibles. Si en effet, parmi les montagnes, il en est qui ne nourrissent plus que les abeilles, il n'y a pas bien longtemps qu'on y coupait des arbres propres à couvrir les plus vastes constructions dont les poutres existent encore. Il y avait aussi beaucoup de grands arbres à fruits, et le sol produisait du fourrage à l'infini pour le bétail. Il recueillait aussi les pluies annuelles de Zeus, et ne perdait pas, comme aujourd'hui, l'eau qui s'écoule de la terre dénudée dans la mer, et, comme la terre était alors épaisse, et recevait l'eau dans son sein, et la tenait en réserve dans l'argile imperméable, elle laissait échapper dans le creux l'eau des hauteurs, qu'elle avait absorbée, et alimentait en tout lieu d'abondantes sources et de grosses rivières. Les sanctuaires qui subsistent encore aujourd'hui près des sources qui existaient autrefois portent témoignage de ce que j'avance à présent. Telle était la condition naturelle du pays. Il avait été mis en culture, comme on pouvait s'y attendre, par de vrais laboureurs, uniquement occupés à leur métier, amis du beau et doués d'un heureux naturel, disposant d'une terre excellente et d'une eau très abondante, et favorisés dans leur culture du sol par des saisons le plus heureusement tempérées. Quant à la ville, voici comment elle était subordonnée en ce temps-là. D'abord, l'acropole n'était pas alors dans l'état où elle est aujourd'hui. En une seule nuit, des pluies extraordinaires, diluant le sol qui la couvrait, la laissèrent dénudée. Des tremblements de terre s'étaient produits en même temps que cette chute d'eau prodigieuse qui fut la troisième avant la destruction qui eut lieu au temps de Deucalion. Mais auparavant, à une autre époque, telle était la grandeur de l'acropole, qu'elle s'étendait jusqu'à l'Éridan et dans l'Ilissos, et comprenait le Pnyx, et qu'elle avait pour borne le mont Lycabette du côté qui fait face au Pnyx. Elle était entièrement revêtue de terre, et, sauf sur quelques points, elle formait une plaine à son sommet. En dehors de l'acropole, au pied même de ses pentes, étaient des habitations, des artisans et des laboureurs qui cultivaient les champs voisins. Sur le sommet, la classe des guerriers demeurait seule autour du temple d'Athéna et d'Héphaïstos, après avoir entouré le plateau d'une seule enceinte, comme on fait le jardin d'une seule maison. Ils habitaient la partie nord de ce plateau, où ils avaient emménagé des logements communs et des réfectoires divers, et ils avaient tout ce qui convenait à leur genre de vie en commun, soit en fait d'habitation, soit en fait de temple, à l'exception de l'or et de l'argent, car ils ne faisaient aucun usage de ces métaux, en aucun cas. Attentifs à garder le juste milieu entre le faste et la pauvreté servile, ils se faisaient bâtir des maisons décentes, où ils vieillissaient, eux et les enfants de leurs enfants, et qu'ils transmettaient toujours les mêmes à d'autres pareils à eux. Quant à la partie sud, lorsqu'ils abandonnaient en été, comme il est naturel, leur jardin, leur gymnase, leur réfectoire, elle leur en tenait lieu. Sur l'emplacement de l'acropole actuelle, il y avait une source qui fut engorgée par les tremblements de terre et dont il reste les minces filets d'eau qui ruissellent du pourtour. Mais elle fournissait alors à toute la ville une eau abondante, également saine en hiver et en été. Tel était le genre de vie de ces hommes qui étaient à la fois les gardiens de leurs concitoyens et les chefs avoués des autres Grecs. Ils veillaient soigneusement à ce que leur nombre, tant d'hommes que de femmes, déjà en état ou encore en état de porter les armes, fût autant que possible constamment le même, c'est-à-dire environ 20 000. Voilà donc quels étaient ces hommes et voilà comment ils administraient invariablement, selon les règles de la justice, leur pays et la Grèce. Ils étaient renommés dans toute l'Europe et toute l'Asie pour la beauté de leur corps et les vertus de toutes sortes qui ornaient leur âme, et ils étaient les plus illustres de tous les hommes d'alors.